3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Et bonjour tout le monde. Désolé de la petit break, donc, mais on revient en force pour notre 30e épisode. Donc,
yay! Je veux dire, on revient puis on force, c'est ça? Ouais.
Non? Non, mais on a le droit à des vacances aussi un peu cet été.
Ouais, ben c'est l'été, c'est plus relax. Ben c'est relax.
C'est surtout relax, parce qu'on va travailler, là, plus.
Mais... ouais, c'est surtout parce qu'on a travaillé la semaine passée aussi, là, moi puis Pierre. Moi puis Marc, là. Bon, Pierre était en vacances, il était à Ottawa.
Ouais.
Voir notre fabuleux Parlement canadien.
Absolument, j'ai même pu voir des endroits du Parlement auxquels que normalement les visites ne vont pas parce que j'ai un ami qui travaille pour le gouvernement.
Donc, comme vous avez entendu, nous sommes présentement en compagnie de Pierre et de Marc, mais nous avons aussi notre invité qui est toujours aussi spécial. Yann. Salut, Yann.
Allô tout le monde.
De retour de Las Vegas ce coup-ci.
Oui.
Et à peine revenu au Canada, on se relance sur les États-Unis la semaine prochaine. Parce qu'on s'en va à Ticonderoga.
Ton jet lag, il tiendra pas le coup. Là.
Aïe. Donc, ben écoute, ça a été quelques semaines... Ça brassait tout pas là. Le Star Trek Discovery est toujours en plein mode promotionnel. Il y a des commentaires faits par Jason Isaacs qui ont mis des trickies en furie. On a un nouveau petit teaser trailer. Toujours autant de questions, toujours aussi peu de réponses. Mais cependant, on va commencer en faisant un petit retour justement sur Las Vegas avec Yann. Premièrement, ben là, quand on s'était parlé la dernière fois, tu étais rendu à ta troisième journée là-bas, je crois. Deuxième.
Oui, non, en fait, jeudi, c'était
le jeudi.
C'est ça, on est... Ouais, c'était la deuxième journée, finalement.
C'est ça.
Ça commençait mercredi, donc c'est ça. Mercredi, c'était vraiment la journée Discovery, donc c'est presque juste ça qu'il y avait au programme, là. Mais après ça, les autres journées, c'était un peu comme à toutes les conventions. Il va y avoir des panels sur les différentes séries avec différents groupes d'acteurs. Des fois, c'est des panels avec juste deux acteurs. Des fois, ça peut être presque le cast au complet. Comme par exemple, cette année, c'était le 30e anniversaire de Star Trek The Next Generation.
Ben oui.
Et ils avaient un panel spécial pour célébrer le 30e anniversaire. Mm-hmm. Malheureusement, Jonathan Frakes a dû canceller presque dernière minute. Donc, tout le monde était là, sauf Frakes.
Ouais. Et puis, il avait cancellé aussi à Montréal là, pour Comic-Con.
OK. Mais c'est ça, les gens étaient vraiment déçus parce qu'il y a des gens qui achetaient aussi des... séance photo avec le cast au complet, puis ben c'est plate là, parce que Jonathan Frakes est quand même un des personnages principaux. Là. Mais il y avait tout le reste du monde était là. Il y avait même John Delancey, Tasha Yar, c'est quoi son nom?
Nicole Crosby.
Oui, c'est ça.
Ah, pas Nicole, voyons.
Pas Nicole, mais Denise. Denise,
Denise Crosby, oui.
Denise Crosby, oui. Le panneau lui-même, personnellement, j'ai trouvé qu'il était un peu décevant parce que, comme il n'y avait pas une bonne structure, ils ont refusé d'avoir un modérateur, ça a l'air.
Oh.
Ça fait que c'était juste eux autres. entre eux autres. Puis là, il y a Marina Sirtis qui s'est...
ouais, elle s'est pognée. Quelque...
ouais, c'est ça. Il y a eu comme un petit accrochage, là. Mais Marina, dans le fond, elle a décidé que c'était elle, l'animatrice. Puis elle a comme un peu malmené les gens et aussi les gens qui posaient des questions, là, pas juste ses collègues. Ouais. Là. Ça fait que, mais elle est toujours intéressante quand même. Elle est très crue et elle ne gêne pas pour dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais des fois, elle devrait travailler un petit peu sur son, son sens de diplomatie. Ouais. C'est que c'est ça, il n'y avait pas vraiment de structure. C'est comme une occasion un peu manquée pour le 30e anniversaire. Il n'y avait pas de questions formelles. Ils ont passé tout de suite aux questions de l'audience. C'était juste des questions. Puis il y a plusieurs questions qui étaient vraiment des questions poches, les questions que les gens demandaient. Là, des fois, c'est pas toujours très recherché.
Ouais.
Fait que de ce côté-là, c'était un petit peu une opportunité manquée pour ça. C'est drôle parce que le modérateur, initialement, qui était censé être présent pour ce panel-là, c'était Terry Farrell de DS9. Puis, en tout cas, je ne sais pas la raison pourquoi ils ont décliné d'avoir le modérateur. Je ne sais pas si ils ne voulaient pas qu'elle vole le spotlight ou quelque chose de même. Mais en fait, c'est ça. Il a manqué un peu de structure pour ce panel-là. Sinon, les autres panels étaient super intéressants. Il y a le panel de Enterprise qui était vraiment, vraiment bon. J'en ai fait deux. Il y en avait un avec Connor Turner et Dominic Keating. Ces deux-là sont tellement drôles. Puis ils font pas juste le panel d'Enterprise, ils font aussi la soirée, une des soirées karaoke.
Okay.
Parce qu'il y a des soirées karaoke, il y a une soirée que c'est Enterprise, juste avec ces deux-là, sur le stage, ils chantent avec le monde, sont vraiment le fun. Puis l'autre soirée karaoke, c'est avec les Klingons, Garon et Martok, en personnage, dans leur costume. Ils chantent avec le monde, ils sont vraiment dans leur personnage. Ça fait que puis je pense que le point fort de cette soirée-là, c'était justement ces deux-là et deux Klingons, deux filles qui j'oublie le nom des sœurs Klingons dans TNG.
Duras, les sœurs Duras.
Ouais. En tout cas, leur prénom, je ne me rappelle pas c'était quoi.
L'Ursa et Bétard.
Ah, et voilà. Donc, ces deux-là, sur le stage avec, mais pas les vraies actrices là, qui jouent ça, mais des fans.
Oui,
là.
Les cosplayers, oui. Je pense qu'elles qui avaient gagné.
Oui, exactement. Ils ont gagné aussi dans la soirée du samedi, le cosplay contest. Mais, en tout cas, vous irez voir les vidéos sur YouTube, des soirées karaoke, surtout celle-là avec les Klingons. Puis je pense que un des vidéos qui est accessible, c'est un vidéo qui chante Killing Me Softly, mais en mélange d'anglais et de Klingon, c'est vraiment réussi. Non, vraiment, ils ont vraiment bien eu ce numéro-là. Donc, ça, c'est plus les points forts de la convention, là, parce que... Il y a eu quand même... il y a aussi le cosplay contest du samedi soir qui est toujours intéressant. Mais c'est pas toujours les mêmes... C'est pas toujours des gens qui... ça varie. Le niveau de difficulté varie aussi. Il y a des gens qui vont avoir des costumes super élaborés. Il y en a d'autres que c'est carrément des uniformes très simples, là.
Il y en a qui étaient
très... C'est le même des conventions, là, je veux dire, en tant que probablement que l'expert des conventions généralistes dans le groupe, je peux dire que toutes les conventions, c'est le même. Tout le monde qui était bien normal avec un T-shirt geek, tout le monde qui sont en costume relativement cheap, qui se trouve n'importe où, puis tout le monde qui sont avec des costumes à différents niveaux de awesomeness. Là.
Ouais. Dans le passé, par contre, il y avait des critères assez stricts pour participer au concours. Ils n'acceptaient pas des uniformes comme de Starfleet achetés ou même standard. Il fallait que ça soit des costumes fait... un peu plus spéciaux, là, moins général. Là.
Okay. Moins que ça
mais
représente,
là, on dirait que... Ouais. Un mais là, maintenant, je pense qu'ils ont ouvert ça à pas mal n'importe quoi, n'importe okay. qui. Fait que c'était quand même intéressant, mais il y a des gens qui ont des costumes super élaborés qui vont même pas participer au concours cosplay. C'est ça qui est un peu dommage. Là.
Ben, des fois, c'est des gens qui ont... Il y en a qui font juste ça, juste pour se promener, ou il y en a qui soit qui ont peur du stage ou qui...
Ouais, habillé en Manskin Borg.
Ouais, non, mais ça, dans les costumes que j'ai vu un Tholian qui était quand même très bien fait. J'ai vu, je pense, que c'est le truc le plus spécial que j'ai vu, c'est le ce qu'on a vu sur Facebook une couple de fois, le fameux casque écrit Spock avec une lumière dessus. Tu sais, ça représente pas mal le merchandising d'affaires vraiment par rapport des années 60-70. Il y a quelqu'un qui l'a vraiment fait avec un casque. Il a pris un casque de moto, puis il a pris de la potée, puis il a vraiment refait le casque en version en taille adulte. C'est un gars qui travaille pour Star Trek Online en plus, un ami de Thomas Marone. Il avait fait justement, j'ai lu un article sur comment il a fait ça. C'est très intéressant. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un petit peu de patience. Fait que je vous invite à. Je vais essayer de retrouver le lien, je le posterai au pire si je le retrouve. Mais ça, mais il y a des affaires. C'est ça, des affaires qui sont vraiment originales. Là, faut...
Ouais, non, c'est vraiment comme ça. Moi, je n'avais pas vu ça avant. Cette idée de cosplay de casque de Spock. Il faut vraiment aller. En tout cas, c'est vraiment des bonnes idées. Des fois. Ça peut être des costumes assez simples, mais il faut y penser.
Oui.
C'est que ça, c'était pour le samedi soir. Après ça, il y avait le gala du samedi soir. Donc, à chaque convention, le samedi soir, il y a un concert. Okay. Par le passé, c'était un orchestre symphonique, le Nevada Pops, qui jouait pas mal des chansons de Star Trek, de soundtrack, des films, des émissions de télévision, vraiment de tout. Mais là, cette année, ils ont changé de format. C'était une soirée plus jazz. C'était justement Ron Jones, le compositeur de Star Trek Next Generation, qui menait un orchestre là, plus style big band. Et... c'était des acteurs, des actrices dans Star Trek qui chantaient.
C'est ça qu'on a eu dans la vidéo que tu avais
posté. Oui, exactement, c'est ça. Donc, le contenu était beaucoup moins Star Trek. C'est vraiment juste le fait que les acteurs chantaient.
Ben, juste une occasion d'entendre Robert Picardo chanter.
Oui. Non, vraiment, c'était... C'est ces gens-là, c'est des acteurs, mais on voit très bien que... Il aurait pu faire carrière facilement.
Faut dire, je sais qu'il n'était pas là cette année, mais celui qui fait Captain Archer, Scott Bakula, a quand même gagné un Tony Award dans les années, je pense, les années 80. Okay. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui sait chanter très bien, puis justement, si on repense justement... je pense John Delancey aussi. John Delancey et Robert Picardo ont de l'expérience, je pense, en opéra. Ça, c'est ceux qui viennent. Je sais que Brent Spiner n'est pas si pire. Honnêtement, il a fait son album de l'année 90, All Your Lies Is Back. Fait qu'il est quand même, il est vraiment pas pire en jazz. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de temps. Ah, puis, ben oui, Avery Brooks qui
mm-hmm.
Lui, il vit le jazz. Lui, tu sais, il vit le jazz.
il sent le jazz dans lui. C'est dans sa personne.
C'est ça.
Comme on a vu dans le documentaire
The
Captains.
The Captains.
Oui,
il était connecté avec la musique. Lui et la musique faisaient un.
C'est ça. Donc, après, on a eu la soirée avec Ron Jones. Parce qu'il y avait, deux expositions, en fait, aussi, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Donc, l'exposition qui avait déjà été montrée à San Diego Comic-Con. Mm-hmm. Donc, tout ce qui était pour Star Trek Discovery, les uniformes, les props, les phaser tricorder, les rifles, des Klingons, les genres de bat'leth, les casques de Klingons. Tout ça, c'était disponible. Je ne sais pas combien de copies qu'ils ont de ça. ils doivent en avoir plus que
ouais, j'imagine. Hein?
Mais c'était vraiment impressionnant de voir ça aussi proche, le niveau de détail dans chaque pièce de costume. C'était wow. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les photos, des fois, ça ne rend pas justice en personne. Ouais. C'est aussi détaillé qu'on pourrait le croire. Là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'était le fun parce qu'il y avait aussi la possibilité de prendre des photos dans la chaise du capitaine
Discovery. Oui, d'ailleurs, tu t'es gâté.
Ah oui, j'ai été plusieurs fois. La première journée, c'était vraiment occupé. Il y avait comme une ligne qui ne terminait plus. Mais vers la fin de la convention, comme que les gens avaient déjà passé, ça fait que c'était facile de retourner juste comme ça, quelques minutes, faire le tour rapidement, puis prendre d'autres photos. Il n'y avait pas de limite sur le nombre de photos qu'on pouvait faire sur la chaise. Ça, c'était vraiment le fun.
Donc, sur les bras de la chaise, c'était-tu des iPads? Il y avait l'air une petite interface? Là,
Oui, mais c'était pas branché, c'était pas allumé. C'est que j'ai pas pu voir le type de backlit display.
Ça, parce que je pense que c'était branché à San Diego. Parce que j'ai vu quelques photos de... Ah, mais c'est dommage, mais en tout cas, c'est correct. On va voir au cours de la série. Donc ça, puis l'exposition Next Generation, de quoi ça avait l'air?
Oui, mais c'était pas une grosse exposition, mais c'était des photos, des archives de Roddenberry, des photos agrandies, dans le fond. Mm-hmm. Et il y avait aussi quelques props, comme par exemple des uniformes, des différents objets, des tricorders, des phasers, des trucs mm-hmm. de même. Qui se sont servis pendant Next Gen. Et qu'est-ce qui était intéressant cette année, c'est qu'ils ont recréé une section de Ten Forward.
Oui,
c'était disponible pour faire des photos, mm-hmm. moyennant des frais. Là.
OK.
Mais je veux dire, c'était quand même accessible, c'est juste qu'il y avait comme une petite barricade, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment s'asseoir au comptoir. Ouais. Là. Si on voulait faire ça, il fallait prendre un follow-up, une ticket pour un follow-up. Puis c'était possible de faire ça avec d'autres personnes ou même avec des acteurs. Je ne me rappelle pas c'était quoi les tarifs, mais aussi les combinaisons d'acteurs possibles, parce qu'il y avait plusieurs options.
Ben oui.
Peut-être, je ne suis pas sûr si la photo de Cass de Next Generation, c'était dans Ten Forward ou si c'était ailleurs. Mais en tout cas, il y avait plusieurs...
De toute façon, il y a une personne avec qui il fallait prendre cette photo-là, mais elle n'était pas là, c'est Whoopi Goldberg.
Oui, effectivement. Whoopi Goldberg, elle était là l'année passée. Je pense que c'était sa première convention Star Trek. Mais cette année, elle n'est pas venue. L'année passée, on a eu droit à Whoopi, puis on a eu aussi eu droit à Christy Alley. C'était la première fois qu'elle venait dans une convention de Star Trek. Ça, c'était vraiment bien.
Ben oui.
C'est ça. Ça, c'était les deux expositions. C'était toujours ouvert. Mm-hmm. Les gens pouvaient y aller entre deux séances. Mais il y a toujours quelque chose dans une des salles. Il y a la salle principale, il y a la salle secondaire. Puis il y a le Vendor's Room. Puis en même temps, il y avait ces deux expositions-là qui étaient accessibles. Il y a toujours quelque chose à voir. Il n'y a pas vraiment... puis en plus, il y avait une autre salle qui était comme... qui avait fait le setup comme si c'était Quarks. Il y avait un petit bar, il y avait Il y a possibilité d'acheter de la nourriture. Il y avait un autre stage aussi, le stage CBS All Access, qui est comme un plus petit stage. Donc, c'était l'équivalent d'une troisième salle.
Okay. Puis, je pense que les barman au Quark, c'était en costume de Ferengi, si je me rappelle bien.
Oui, pas tout le temps, mais c'est plus pour des photos. Okay. Mais sinon, c'était du personnel de l'hôtel Rio qui servait. Donc, eux, ils n'étaient pas, pas en costume.
C'est ça, ben, j'en avais vu une couple, justement, des Ferengi bartenders. Là. C'est pour ça. Ouais. Et sinon, on a droit à une annonce assez intéressante que nous, on avait appris au cours de notre dernière visite à Ticonderoga, mais là, c'est officiel. Donc, le Star Trek Film Academy. Ils n'ont pas parce que ça, c'est une erreur que plusieurs font. Ils disent que c'est un Fan Film Academy. Non, c'est un Film Academy. Parle-nous un peu de cette annonce-là.
Oui. Ben, c'est une conférence, dans le fond, qui était plus pour... au début, c'était pour expliquer le travail de restauration qu'ils ont fait pour... pas restauration, mais la reproduction qu'ils ont faite à Ticonderoga. Et vers la fin de cette session-là, presque à la toute fin, c'est là qu'il a fait l'annonce, James Corley a fait l'annonce, comme quoi que effectivement, ça serait possible de faire des vignettes avec des scripts autorisés.
Oui.
Donc, au début, on mentionnait... Ben, en fait, il n'a pas donné beaucoup de détails. C'était très... bare bones, là.
Ouais.
Puis après ça, je pense que comme les prix, tout ça, on n'a pas eu accès à ça. Puis même que certains détails, j'ai eu par après, quand j'ai croisé James Corley, j'ai demandé comme un petit peu plus de détails, puis il m'a dit que c'était, bon, justement, qu'il y avait 4 scripts qu'il envisageait, mais qu'au début, ça serait peut-être juste 2 scripts qu'on pourrait choisir. Et dans le fond, ça serait un petit peu suivant l'idée d'une croisière. Là, ça serait comme des semaines fixes, comme un genre de camp, si on veut.
Ouais.
Donc une semaine complète, logée à Ticonderoga pour faire vraiment se concentrer sur cette vignette-là. Et il y aurait possibilité de faire plusieurs positions différentes. Donc... pas juste devant la caméra, mais derrière la caméra, l'éclairage, les sets, la direction.
Parce qu'il avait donné une entrevue avec AXA Monitor, ben pas AXA Monitor, avec le gars d'AXA Monitor, mais qui est en fait pour Trek Zone. Puis je pense qu'il ferait 2 groupes en même temps qui produiraient 2 scripts.
Exact.
Fait que ça fait probablement 2 groupes de 50 personnes, 100 personnes au total. Ça va bouger en tabarnouche autour des...
ouais. C'est pas mal ça pour les détails. Il y a vraiment pas rentré dans les détails, comme par exemple le coût, tout ça.
Ouais, c'est ça.
À moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui soit sorti par après, mais c'est moi, ça. J'ai pas vu. Là.
Parce qu'il faut calculer, là, ça. Est-ce que ça compte justement le logement? Est-ce qu'il faut justement se louer un hôtel par une semaine de temps? C'est pas donné
exact.
Non plus.
Ouais. Il y avait aussi le fait qu'il y aurait possibilité d'avoir des directions de Doug Drexler, Mike Denise Okuda.
Ouais.
Donc, ça peut jouer dans le prix.
C'est ça, exactement. Là. Parce que faire venir du monde de Los Angeles, là, c'est pas gratuit. Donc, c'est ça. Donc, à part de ça, y a-t-il d'autres choses qui t'ont...
Des choses justement,
que tu peux parler à la radio.
ouais, c'est ça. Ben,
j'ai une question pour toi, Yann.
Oui, vas-y.
Juste rapide. Est-ce que t'as mis de l'argent dans les machines... dans les machines? Ou tout ton argent est passé dans Dealers?
normalement, je joue un peu, mais... pratiquement pas. Là, je pense que cette année, j'ai mis 20$ dans une machine, puis ça s'est arrêté là.
Est-ce que c'est une machine Star Trek au moins?
Non, j'en ai pas eu de machine Star Trek. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ouais. J'en ai vu une fois, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est la machine Original Series.
Quand ma blonde est allée au Japon, elle a été dans une place à Pachinko puis il y avait une machine de Star Trek.
Wow.
Nice.
Non, c'est ça, comme le gambling, c'est sûr que il y a en masse d'opportunités, mais je préfère mettre mon argent dans les valeurs sûres, justement, le dealer's room. Au moins, tu vas sortir de là avec quelque chose.
Tu fais avec.
Ouais. Ben justement, le samedi, le jour qu'on avait le cosplay contest, concours de costumes de cosplay, ça a donné que Mary Chifo, la Klingon, qui va jouer Laurel, ou Elrel, elle était là, elle était une des juges. Et ben, naturellement, il y a les deux sœurs Duras qui ont gagné. Là. Je ne sais pas si c'est arrangé. Mais elle est restée un petit peu plus longtemps, puis elle était vraiment sympathique. Elle s'est approchée aux gens qui restaient, parce qu'il ne restait pas grand monde dans la salle. Il restait peut-être, je ne sais pas, une dizaine de personnes. Puis là, j'ai eu la chance de lui parler pendant comme un bon 5 minutes. Juste une conversation très informelle. Elle m'a même montré des photos sur son téléphone de son personnage. Puis je suis surpris qu'elle avait accès à ça, parce que normalement, il enlève tous les téléphones des gens justement pour pas que ça se ramasse sur Internet. Là. Mais elle a montré rapidement des petites photos de sa préparation. Puis elle était vraiment sympathique. Puis on voyait là, qu'il avait de la passion, puis qu'elle s'intéressait à tout l'écosystème de Star Trek. Là. C'était vraiment... puis, qu'est-ce que je lui ai demandé, c'est comment est-ce que tu trouves le fait que tu es complètement méconnaissable dans ton personnage? Parce que tu regardes une photo de elle dans son costume de Klingon, puis tu la regardes en personne, puis ça pourrait presque être n'importe qui. Même jusqu'au sexe, on peut même pas vraiment bien voir que c'est un homme ou une femme. Comme... Puis elle m'a répondu qu'il y avait plusieurs couches à son costume et qu'on allait éventuellement en voir plus. Donc, sous son armure, il y a comme d'autres, je pense qu'il va
avoir... D'autres attributs.
Possibilité de... il va avoir possibilité de voir autre chose. Mais pour l'instant, sont tellement les costumes qu'on a vus sont tellement... on peut pas vraiment bien voir...
Est-ce que Star Trek va finir à HBO?
Je penserais pas, non.
Du Klingon nu.
Je penserais pas.
Puis, c'était le fun de voir Mary comme ça, proche, puis de lui parler, puis de voir qu'elle était intéressée aux femmes. Puis, pendant toute la convention, il y avait Gary Graham puis son band Sons of Kirk qui jouaient. Puis, c'était vraiment le fun de voir les interactions entre Gary Graham et les autres acteurs sur le stage, parce qu'ils faisaient comme des petites intros entre les panels. Puis, justement, quand il y avait le panel de DS9 qui est embarqué avec Jeffrey Combs, puis tu sais, ils se connaissent de plein d'affaires, là, dans Enterprise. Puis c'était juste drôle de voir les interactions entre lui puis les invités. Puis peut-être juste finir avec, dans le fond, j'ai rencontré les écrivains, les auteurs des romans qui vont sortir de Star Trek. Puis justement, lorsque j'ai été me présenter pour l'entrevue avec David Mack dans sa suite au Rio, j'ai remarqué qu'il y avait un petit lapin sur son lit. Puis là, je lui ai demandé c'était quoi l'histoire de cette peluche-là. Puis il m'a dit qu'il la portait tout le temps avec lui. Puis c'était un petit peu dans le style de Tom Sullivan avec Jason Gorn. Puis là, il m'a montré des photos parce que juste avant, il avait été lunché avec justement l'équipe de Discovery avec Tom Sullivan, Mary Chifo, tout le monde qui était là de Discovery, qui était là pour la convention à Vegas. Il avait été mangé, puis il avait été mangé avec Jason Gorn aussi. Puis là, ils ont fait un petit photoshoot avec Jason Gorn qui buvait, puis qui était comme passeout dans, ouais. dans un verre, tout ça. Fait que là, il m'a montré ça sur son téléphone. Là. Je trouvais ça bon. Puis je lui ai dit, il va falloir t'en faire ça avec ton lapin. Son lapin qui s'appelle Roman. C'est que si jamais... je sais pas si...
Yann, tu as eu un contact vraiment privilégié avec certains...
il y a de quoi être jaloux, là, gars.
Vraiment? Ouais,
ça, c'est grâce à JP, parce que c'est lui qui a tout organisé les rencontres pour moi.
C'est juste encore plus frustrant pour moi, parce que c'est moi qui set up ça, mais c'est Yann qui se tape la belle job.
Non, JP, vois ça comme le fait que tu étais un agent.
Oh oui, j'étais son agent. Là. J'ai seté des meetings, tout ça. Ben justement, pendant notre truc David Mack, je l'ai ici dans mon dread devant moi. Donc, on va la faire jouer et on va passer à la musique par après. Et on va vous revenir par la suite pour la petite chronique à Pierre, parce que Pierre, tu as été à un événement récemment et tu as pu essayer le fameux Star Trek RPG, Star Trek Adventures,
oui.
le Modifius.
Oui, je dis rien, j'attends tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de choses à dire.
C'est bon, c'est qu'on part avec Yann et son autre avec David Mack. Et ensuite, on va aller avec We're Not Gonna Take It de Klingon Pop Warrior. Donc, un peu en honneur du Klingon Karaoke que tu nous parlais tantôt, Yann. Et on vous revient après la pause. Donc, sur ce, c'est à toi, Yann.
Nous sommes en compagnie de l'auteur du premier roman de Discovery, David Mack. Mr. Mack, thanks for talking to us.
It's my pleasure.
There's a long history and impressive list of Star Trek novels you have written. We just saw the cover of your upcoming Desperate Hours novel. Mm-hmm. How exciting is it to be writing one of the first novels that is based on the new show?
It was a great honor to be selected to write the first novel based on Star Trek Discovery. It reaffirms my sense that the folks in charge of Star Trek trust me, and they know that I have a long history, that I've written for every incarnation of Star Trek in the books, all of the different series, all the different characters. And my friend Kirsten Beyer, also a Star Trek novelist, who is on the writing staff of Discovery as a staff writer, and she's also acting as the coordinator for tie-in publishing. She knows that I am good at picking up character voices and the style of dialogue that is unique to every character. And so she trusted me to be able to glean that information from just the scripts and translate it into prose in a novel. So I feel very honored and very lucky to have been selected to write the first book.
Even though you helped draft character profiles for the show that were adjusted to reflect casting, how challenging was it for you personally to write about presumably established characters that have yet to be portrayed on screen, even with the Discovery Writers Room integration? That must have been difficult.
It did pose challenges. However, it helps that I am familiar with some of the actors they cast. I've been a longtime fan of actress Michelle Yeoh. I have been very familiar with the work of Sonequa Martin-Green on The Walking Dead, and I know of some of the other actors they've cast in other roles. So that helped me to imagine how those actors, whose work I know, will interpret those roles.
Okay. What kind of materials did you have access to help creating the story to properly integrate it in the Discovery realm?
Well, first I had a request from Brian Fuller to write specifically this kind of a story. He wanted me to cross over the Shenzhou, which is the ship in the first two episodes of the series, and its characters with existing characters from Star Trek. To facilitate that, I was given access from the very beginning to concept sketches, production design documents, early artwork, and throughout the process I have been in the loop and on the distribution list for all of the screenplays that are being used for the episodes, all the revisions that occur to those scripts. So I've been given a great deal of behind-the-scenes information.
Okay. Can you tell us a little bit about the premise, plot, or time frame the book takes place in?
The book is set 1 year before the events of the two-part pilot episode of Discovery, and 1 year after the events of the original series, original pilot, The Cage. Specifically, the story takes place on May 11 and 12, 2255.
Okay, very good. So if I understand correctly, Brian Fuller had originally asked you, originally asked for the premise of this book, and it was meant as some kind of bridge between TOS and Discovery. Could we say that more or less?
Yes, that would be correct.
Okay. So the novel comes out on September 26, 2 days after the Discovery premiere.
Yes.
Is that when we should be reading this book?
That is when I would recommend it be read. The reason it's not coming out before the show's premiere, even though it's a prequel, is that there are details in the book that would be spoilers if you saw them before you watched the pilot. After you watch the first two episodes, this book will serve to help answer questions about the backstory of the main character and her relationship to other characters.
All right. Well, thank you very much for talking to Parlons Trek, Mr. Mack, and we look forward to reading your first Discovery novel. Thank you very much.
It was my pleasure. Thank you.
Joe!
Et nous revoici sur les ondes de puissance maximale, toujours en compagnie de Yann, Pierre, Marc et moi-même, JP. Donc, Yann, avant de passer à Pierre, tu veux peut-être faire un petit résumé en français de l'entrevue avec David Mack?
Ben oui, dans le fond, il nous parlait du premier roman qui a été mandaté d'écrire par Brian Fuller. Mm-hmm. Donc, avant le départ de Brian Fuller, on lui a demandé d'écrire un livre qui allait faire un genre de lien entre la série originale et Discovery. Lui, il est impliqué depuis le début, mm-hmm. Depuis le tout début dans tout ce projet-là. Et tellement que il est impliqué, il a été un peu comme mandaté d'écrire les profils des personnages pour l'émission. Qui ont été par la suite modifiés pour refléter les choix de casting. Donc, c'est lui qui a décidé vraiment, ou qui a suggéré des backstories pour les personnages principaux. Donc, il est vraiment impliqué dans Discovery et il continue à l'être même maintenant parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est que tous les scripts qui sont envoyés, en fait, tous les scripts qui sont finalisés pour, ou même pas finalisés, mais qui sont en processus de ouais. d'être terminés, ils passent par lui et par un autre auteur, l'auteur du deuxième livre de Discovery, Dayton Ward.
Ouais.
Donc, il y a vraiment une intégration complète de la salle des scripteurs avec ces romans-là.
C'est déjà jamais vu. C'est ça, c'est déjà jamais vu au niveau de Star Trek. Là,
oui, exactement. C'est vraiment fait dans une optique de ne pas se marcher sur ses pieds puis que les histoires soient complémentaires. Maintenant, malgré tout ça, ça demeure que les romans, on n'a pas confirmé que ça allait être canon. Mais on peut comme lire entre les livres que ça l'est. Lire entre les lignes là, que ouais. c'est canon. C'est juste qu'ils ne veulent pas
se mettre dans un coin.
Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre là, pour... j'ai pas écouté dans l'entrevue récemment. Là, mais...
ben, c'est correct. Ben, au pire, on va probablement faire un petit truc en écrit ou je pourrais peut-être l'adapter en YouTube juste avec des sous-titres là, dans le futur. Là, avec,
peut-être juste mentionner que le roman va sortir le 26 septembre, donc 2 jours après la première de Discovery. Et puis, d'après M. Max, c'est vraiment le meilleur moment de lire ce livre-là parce que ça va... Si le livre il serait sorti avant... ça leur aurait vraiment donné des spoilers sur les personnages. Donc, okay. C'est parfait pour ajouter plus de profondeur à ce qu'on va voir après les premiers épisodes.
J'ai hâte de voir ça. Donc, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc, il nous reste à peu près 39 jours, 38 jours avant Star Trek Discovery. Donc... on y arrive. Donc, encore un gros merci, Yann, pour tout ton sacrifice intense que tu as fait pour nous à Las Vegas.
Ah, c'était pas un gros sacrifice, ça m'a fait vraiment plaisir.
Non, c'est le sacrifice dans le sens de mon Moses de petit sacrifice, toi.
Et donc, on va de ce pas, nous allons nous tourner vers Pierre.
Bonjour, oui, moi-même. Pierre. Bonjour.
Donc, Pierre, Star Trek Adventures par Modifius.
Oui!
Pousse en bas, là, c'est...
Je veux... En fait, moi et ma tendre douce, on était partis dans le coin d'Ottawa pour aller visiter une couple de musées. Puis, on a entendu par l'entremise de quelques amis qu'il y allait avoir une petite convention qui allait avoir lieu cette fin de semaine-là, totalement par hasard, qui s'appelait G-Gamers. Mm-hmm.
qui est organisé par ceux qui font G-Animé, une convention que je connaissais déjà. Alors, je me disais, bon, ben, on va y aller genre le samedi soir. Et en regardant les horaires, parce que normalement, c'est censé être des jeux sur table puis des jeux vidéo. Là, en regardant un petit peu le site web, je me rends compte que, oh mon Dieu, il y a des games de Star Trek Adventure. Ouh. Ça tombe-tu bien? Je voulais essayer ça. Fait que je retourne donc sur place et moi et ma blonde, on demande à faire la game. Ils acceptent bien sûr avec moult plaisir parce que sinon ils auraient été poignés à être même des employés à faire la game. Ouais. Alors donc sachant qu'il allait avoir des joueurs, ben ils se disent oh, ben super, on met le paquet. Fait que on a été une belle petite gang. Alors donc moi, évidemment, vous me connaissez, j'arrive un petit peu préparé avec mes petits macarons qui me donnent plus un à Dex, plus un à Caris, plus un à Intel. Mais quelle ne fut pas ma surprise en prenant la feuille de jeu de me rendre compte que ben ça allait servir à rien. Parce que ce système-là a une façon totalement différente de faire les choses. Alors, comme j'avais dit, c'est un système auparavant, quand on en avait parlé auparavant, c'est un système qui fonctionne à 2D20, mais pas de la façon qu'on peut penser. Parce que ça fonctionne non pas dans une réussite, un site étant ce qui est le plus haut, mais plutôt ce qui est le plus bas. Donc, si on a un 1, ben on a un critique. En fait, c'est plus facile que ça même d'avoir un critique. Il faut avoir en bas de 5, je crois. Et même encore plus, il y a certains focus. Bref, je vais expliquer de la base. Donc, pour commencer, on nous avait donné le choix d'un vaisseau parce que le vaisseau a un rôle très important dans le jeu parce que c'est toutes les NPC, dans le fond.
Ouais.
Le vaisseau a ses propres stats du vaisseau et aussi les stats de jeu de toutes les redshirt no name qui prennent notre place quand on n'est pas à notre console. Alors donc, ma blonde et moi, on regardait les personnages. J'ai été légèrement tenté par être un helm, mais Chief Engineer me tentait.
Ah!
Je suis toujours à essayer le cléric, moi, quand j'essaie un jeu de rôle. Puis, il y avait déjà quelqu'un qui avait le medical. Moi, de toute façon, l'ingénieur m'a tenté à fond. Fait que j'ai pris un télérite qui se nomme Crève Glarch Thor.
Quel beau nom qui roule dans l'oreille.
Ah oui, son roleplay est de tester tout à leur limite, de toujours dire ce qu'il pense. Que toutes les théories valent la peine d'être vérifiées et aime ton vaisseau comme t'aimerais ton enfant.
Ouh.
J'ai respecté tout cela à la lettre. C'était savoureux.
Bref, j'imagine un nain, tu sais, un nain de Donjon Dragon, mais ce serait un Talarite dans Star Trek, je pense.
Oui, mais quand même, les théorites sont pas si petits que ça, mais c'est vrai qu'ils sont
plus petits. Je parle pas au niveau de la stature, je parle au niveau de l'attitude. Là.
Oui, l'attitude, oui, c'est très télérite. Et ma blonde a fondu pour une Andorienne qui était la Chief Security Officer.
Okay.
Alors donc, le lieutenant commander Kuelas Sarat. Je vais expliquer rapidement le système. Alors donc, pour commencer, les attributs qui normalement, dans un jeu de rôle des 20 standards, seraient dextérité, force, intelligence, charisme, bref, les classiques. Dans ce cas-ci, c'est plutôt le contrôle, le daring, le fitness, le insight, la présence et la reason. On voulait me dire que c'est pas mal les mêmes choses, mais c'est quand même un petit peu plus subtil. Chacun de ces attributs a un chiffre déterminant à quel point que vous êtes bon ou mauvais là-dedans. Donc, juste pour dire, j'avais un contrôle, un daring, un fitness et un insight de 9, un reason de 12 et une présence de 7. Bon, fait que vous vous doutez que la raison étant ce qui est plus fort en moi. Ensuite, on a 6 autres attributs qui là se nomment plutôt les disciplines, qui sont le command, le calm, dans le sens de pilotage, le security, le engineering, le science et le medicine. Toutes des mots qu'on reconnaît très bien en tant que, ouais. en tant que Trekkie. On pourrait même mettre des couleurs là-dessus. Alors donc, effectivement, comme je suis un ingénieur, ben mon engineering est à 5, ma security est à 1, mon command et mon medicine à 2, mon science et mon con à 3. Donc, quand arrive quelque chose qui nous demande de faire un jet, donc dans mon cas, mettons, il fallait que je répare quelque chose, alors on me demandait de faire un jet en rapport avec ça. Là, dans le cas qui arrivait le plus souvent, c'était de manipuler les contrôles, donc contrôle qui était à 9, ouais. et j'ajoutais mon engineering qui est de 5, donc ça fait un total de 14. Alors, en jetant mon dé, faut que j'aille en bas de 14. Si j'ai en bas de 5, c'est un critique. Si j'ai en bas de focus, c'est un autre critique. Les critiques vous donnent des succès. Alors, à chaque fois qu'on réussit, donc en bas de 14, c'est un succès. Le maître de jeu nous dit, j'ai besoin de tel nombre de succès. Alors, si c'est extrêmement difficile, on va demander 3, même 4 succès. Dans ces cas-là, on va utiliser certains pions qui nous donnent, dans le fond, c'est des... Je me souviens plus c'est quoi le mot, là, mais je crois que c'est dans le fond, c'est des... C'est comme du statut supplémentaire. Là. Bref, c'est quelque chose qui nous donne des dés de plus. On peut en avoir jusqu'à 6. Enfin, bref, j'explique très, très rapidement. Wow, oui. Donc, à chaque fois, donc mettons que je réussissais avec mes deux dés, les deux sont en bas de 14, puis il y en a même un que j'ai même un 1, un 2, un 3 ou un 4, alors que c'est justement dans un de mes focus, parce que oui, on a des focus qui nous déterminent dans quoi on est bon, genre warp drive ou pilotage de petits vaisseaux ou power system. Alors donc, là, c'est un critique, ça compte en double. Fait que donc, mettons, j'aurais réussi un 13 et un 4, ça me donnait 3 succès. Et si la mission m'en demandait seulement un seul succès, j'avais 2 pions de plus pour l'équipage, pour nous aider à accomplir d'autres actions. Alors, c'est un pool qui est pour tout l'équipage. Je vais raconter rapidement qu'est-ce qui nous est arrivé. Alors, en gros, on était assigné à une Starbase qui était en plus, on avait un beau ship, on avait un Intrepid class, là, comme le Voyager. Ouais. Et on avait on était à un endroit qui était, comment on dit ça, donc, où on était avec les Klingons, mais que
c'est une zone
neutre, exactement, merci. Alors donc, on était à une base avec une zone neutre, et nous, ainsi qu'un vaisseau Klingon, devions escorter plusieurs vaisseaux pour se rendre à un autre endroit qui avait très besoin du supply. Évidemment, dès le début, je règle un petit problème d'énergie qui n'était pas à bonne place parce qu'on venait de se faire installer des nouveaux senseurs. Et ma blonde, qui n'avait pas grand-chose à faire, décide, je vais faire un test de tout l'équipement d'armement et de tout qu'est-ce qui est security. Et qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir 3 torpilles qui n'étaient pas sur son manifeste. Alors, ils sont allés voir les torpilles, se sont rendus compte que, contrairement aux standards de Starfleet, celle-là était légèrement dorée. Et après un petit scan de track order, ils se rendent compte qu'il y a un beau petit détonateur dessus qui va partir dans 2 minutes. Évidemment, il m'appelle au secours. Alors que moi, j'étais en train d'essayer de régler le EMH du vaisseau parce que le médecin n'aimait pas son bedside manner. Alors donc, j'étais en train de faire ce réglage-là. Je téléporte les bombes d'or. On propose à tout le monde de faire un scan dans tous les vaisseaux pour essayer de trouver ça. Il y a rien que les Klingons qui nous disent un peu trop rapidement « Oh non, on n'a pas ça à bord ». Évidemment, alors qu'on était en pleine mission, leur ship font un gros boom et leur warp core devient froid. Alors évidemment, devinez c'est qui s'en va là pour aller réparer les pots cassés. Mais ça a bien été, j'ai fait un critique. 2 fois. D'abord pour réparer l'antigravité, ensuite pour réparer le warp core. Je l'ai reparti sa compression, comme on dit.
Fait que donc, au final, il y avait eu à la toute fin, on a eu un combat de vaisseau qui s'est extrêmement bien passé grâce justement à des critiques de notre côté. Ils ont eu des critiques aussi du côté ennemi, mais c'était on a tellement ravagé, ça avait juste aucun bon sens. C'était vraiment très le fun, mais en même temps, le maître de jeu, vu qu'on était un peu pressé par le temps, nous a dit qu'il pouvait rendre ça beaucoup plus difficile, mais qu'il voulait juste nous donner un exemple.
Ouais.
Personnellement, j'aurais pas détesté d'avoir un petit peu plus de complications, mais en même temps, il y avait beaucoup de gens autour de la table qui étaient très habitués au jeu de rôle, donc ils savaient où ce qui s'en allait. C'était du monde stratège qui connaissait autant Star Trek que les jeux de rôle. Et qui savaient où mettre leurs avis, puis quand demander l'attention du maître de jeu pour faire des choses, etc. Fait que, tu sais, on savait où est-ce qu'on s'en allait, puis ça a vraiment bien été. Fait que donc, ce jeu-là est vraiment pouce en l'air, comme tu m'avais demandé tout à l'heure.
Ouais.
Il est vraiment le fun. Honnêtement, en sortant de là, j'ai été sur mon ordinateur puis j'ai commandé la version PDF.
Ben, wow!
Ouais. Fait que non, c'est sûr que tu me l'avais demandé par nos messages privés. Ouais. Oui, je vais faire une game de ce système-là. Puis oui, on va avoir du fun. Puis autre fun, pour ceux qui aiment les jeux de rôle, mais qui sont malchanceux dans le jeu de rôle, je vous comprends amplement. Je fais partie de ça.
Les dés ne m'aiment pas.
Oui, ben c'est ça. On tombe plus souvent qu'autrement, on tombe sur des 1 à 4. Ben là-dedans, les 1 à 4, ben c'est très, très bon. Fait qu'on devient des super-héros là-dedans quand on est mauvais.
Ça veut dire que moi, je ne jouerais pas du tout à ça.
Pourquoi? T'as toujours des vins naturels quand tu joues
au jeu de rôle? À peu près.
On sait jamais, peut-être que t'as l'air. Non, mais ça peut être drôle. Anyway. Mais non, le système est très bien fait. C'est sûr, j'ai pas pu tester les combats au corps à corps ni les combats à coup de phaser. J'ai pas pu voir les limites du système. J'ai même pas eu de blessure. Personne dans notre équipe a eu de blessure. En fait, on a juste eu à gérer des blessures des Klingons. J'ai pas pu utiliser la moitié de mes talents qui sont justement des filles là-dedans. Là. C'est ça, puis pas plus ma conjointe, mais tous les deux, on s'est amusés comme des petits fous. Ma blonde n'était pas trop sûre en se disant « Oh, jeu de rôle à Star City », il était quand même relativement tard, puis on avait une très grosse journée. Mais on s'est laissé avoir par le jeu, on était complètement ravis. Non, c'est un gros pouce en l'air pour ce jeu-là. Ça va être vraiment bon. Et officiellement, le livre sort le 30.
Ah, je devrais l'avoir bientôt.
Très bientôt, oui.
Moi, j'ai le PDF depuis un petit bout, mais je ne suis pas un expert comme toi en jeu de rôle. Fait que pour moi, c'est pas mal du chinois.
Mais en même temps, le système aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il est fait pour jouer autant du série originale, du
Next Generation. Tout.
Next Generation, DS9, Voyager et Enterprise.
Ben donc,
toutes les époques sont utilisables. Le système, comme j'ai expliqué, est relativement simple pour le joueur. Le maître de jeu, évidemment, il faut qu'il en sache un peu plus que les autres. Mais ça s'apprend vraiment bien. T'sais, ma blonde elle a beaucoup joué, mais elle a toujours joué en système des 20. Elle n'a pas beaucoup joué à d'autres systèmes. Puis,
C'est excellent, ça.
Oui.
Fait que j'ai hâte de recevoir mon package de débutants, là. Donc, pour ça, moi, j'avais commandé le Master Screen, un set de dés avec quelques petits feuilles supplémentaires. Donc, j'ai hâte de voir les goodies que je vais avoir avec ça, là. Toujours le
fun. Ouais, oui, j'ai vu aussi qu'il y avait en vente un quelque chose de vraiment cool qui est le cube Borg.
Ouais, qui est très très cher.
Oh, il est 600$, mais c'est tout. Qu'est-ce que 642 Canadiens qui a les maps, des pions, puis en veux-tu, en voilà. Les joueurs que j'ai eu justement, jouait avec des maquettes de Star Trek Attack Wing.
Oui, ouais, ouais, ben c'est ce qui est officiellement recommandé pour les maquettes de vaisseaux. Là, donc, dans le FAQ sur le site web de Modifius. Donc, ceux qui ont plus de budget peuvent utiliser ceux qui ne sont pas disponibles vraiment au Canada ou ne sont pas facilement disponibles, c'est les Eagle Moss. J'aimerais vraiment voir, mais bon, les Starship Collection. Mais ça, c'est ceux qui sont à plus haut budget. Moi, je vais rester au Attack Wing.
Mais c'est ça. Fiez-vous pas juste à mon avis. Allez voir sur Internet et je dois dire que la majorité des gens sont de mon avis. C'est un jeu le fun, bien fait, nerveux, très cinématographique. Donc vraiment, on explique qu'est-ce qu'on veut faire et le maître de jeu trouve facilement le type de jet à faire. C'est vraiment d'une facilité assez effarante. Non, c'est un très bon petit jeu.
Bon, ben j'ai hâte de voir ça. Genre, on pourra faire un podcast spécial où on fait une game et peut-être pour en faire une série si jamais ça va bien.
Donc, j'aimerais mentionner aussi un autre jeu de rôle qui s'en vient vraiment très bientôt, qui est Starfinder. J'en avais déjà parlé, le jeu de rôle de Paizo, le jeu de rôle de science-fiction de Paizo. Et ça aussi, ça va être extrêmement facile de faire une game de Star Trek. Alors, ça ne sera pas la seule game que je vais vous faire avec le système de Star Trek Adventure. Je vais vous en faire une avec Starfinder pour voir quel feeling qu'on va donner.
Peut-être une game de quelque chose d'autre avec Starfinder. Quelque chose de similaire assez, mais on verra ça.
Ouais, on va voir ça. Mais moi, comme ce que je me dis, je vais vous faire un Star Trek, mais tu sais, complètement différent de l'autre Star Trek, tu sais, autre époque, autre style.
OK.
Totalement autre genre.
C'est bon.
Tu devrais juste à maîtriser le logiciel de D.
Oui. Ouais. Il va falloir qu'on travaille là-dessus.
On verra.
Alors donc, à toi, mon Gibi.
Donc, sur ça, j'allais dire qu'on va y aller en musique avec Pressure de The Roddenberrys. Donc, que justement, Yann a eu le plaisir.
Super sympathique. Vraiment, c'est un plaisir de leur parler. Puis, ils m'ont donné leur album aussi, celui-là, justement, qu'on trouve Under Pressure.
Oui. Donc, ça, moi, j'avais acheté sur leur Bandcamp. C'est cela. Donc, sur ça, on va y aller en musique avec Pressure de The Roddenberrys. Et on va publier l'entrevue que Yann a faite avec eux. Super, donc c'est une entrevue vidéo, une très très belle entrevue. Donc sur ça, on y va en musique et on vous revient après la pause.
Cut power.
Full power, Mr. Scott.
Scotty, we're running out of time.
That's not possible.
Not on my watch. I could use a scotch. I could use some scotch. Whiskey! Pressure! Pushing down on me. Repairs will take 6 hours. The circuit's overload, it splits my kilt in two. Jeopardizes the crew. Captain of your shaft, you know I know this craft. Have you gone daft? Have you gone daft? Hold together, man. It's a headache knowing what the ship's all about. Transport is down, but Scotty, beam us out. Not good enough, Scotty. Oh, my poor Burns. Aye, sir! I know this ship like the back of my hand. Captain Kirk, I'm working as fast as I can. They're gonna blow us up. They're gonna blow us up. We're gonna blow up. Aye, sir! Ship has needs. Gotta meet 'em, meet 'em. Kirk has needs. Gotta meet 'em, meet 'em. Moffat is to eject the warp core. Running out of time, but Scotty, give me more. Unix crisis, he'll give me more time. Unbalanced the ship, and the Enterprise has started to drift.
Got to figure this out, or we're all gonna die.
But I'm giving her all she's
nous revoici en ondes, toujours sur les ondes de puissance maximale. C'était Pressure de Roddenberrys. Donc, pour finir, comme on mentionnait au début de l'émission, donc à peine revenu de Las Vegas, Yann, tu vas repartir aux États-Unis. Cette fois-ci,
oui.
En notre compagnie.
Oui.
À moi et Marc, donc on va aller retourner pour une deuxième fois cette année à Ticonderoga, New York, pour ce coup-ci une vraie convention et non pas juste une visite spéciale avec des invités très spéciaux, mais on va il y a vraiment des panels, une salle de vendeurs, etc. C'est une convention plus intimiste, on se le cachera pas là, probablement une bonne petite centaine de personnes présentes, ce sera à voir. Il y a quand même des invités très spéciaux qui vont être présents. Donc, on parle de Walter Koenig, Nichelle Nichols, Lee Merriweather, Eddie Parksley, Mary Linda Rapalai, Barbara Luna, Charlie Brill et Michael Dante. Donc, ce sont tous des gens qui ont joué dans la série originale. Donc, ils seront tous présents.
C'est le genre d'événement qui met Ticonderoga sur la map.
Oui.
Parce que si on se base juste sur les hôtels de disponibles, il y avait vraiment très peu de choix. On dirait que la ville au complet est prise d'assaut par la convention. Ouais.
Ben, c'est sûr que faire un spectacle aussi samedi soir de Elvis, ça fait remplir quand même beaucoup de monde.
Oui. Faut dire c'est ça là, ça il y avait ça faut dire là c'est ça parce que nous autres on a pris le package complet là, on a l'entrée générale, on a pris le dinner avec donc un souper VIP avec les invités et ensuite je pense le samedi soir on a un spectacle Elvis avec justement James Colley en Elvis donc il va faire sa job. Pour sa vraie job. Donc, c'est le vendredi, samedi et dimanche qui s'en viennent. Donc, le 25, 26 et 27 août. Donc, l'entrée générale est une cinquantaine de dollars. Le spectacle Elvis est 60 et le dîner est... le spectacle Elvis est 25 US.
Et le souper est 60.
Le souper est 60. Donc, Moi, ça va être une petite fin de semaine. J'ai l'impression qu'on va je vais essayer de prendre ça plus tranquille que la dernière fois. Parce que
ben on a quand même visité, alors.
C'est ça.
On va plus se concentrer sur les événements.
Ça, on a déjà tout acheté les souvenirs la dernière fois.
Ah. Il y a ça aussi.
pas de Mountain Dew cette fois-ci?
Non, j'ai ma dose de Mountain Dew. J'en ai pas repu depuis qu'on est allé.
On va essayer de trouver quelque chose d'autre. C'est ça. Donc, il y a aussi, évidemment, des panels, comme on disait. Il va y avoir, évidemment, chaque artiste invité va venir, chaque acteur va venir faire un panel. Il y a aussi, donc, le Science Nerds, Star Trek versus Star Wars. Il va y avoir un show de magie pour les enfants et les adultes. On a la Culture Klingon 101. 40 ans de Star Wars, une rétrospective. La cinématographie de Star Trek. La science d'exoplanètes. Un panneau sur Cosmos 1999. Une série que personnellement j'adore beaucoup. Building the Enterprise, One Fan's Journey. Donc, ça, c'est un panneau de James Cawley. Donc, j'imagine que ça va être une présentation sur sa construction des. des décors. Et il y a un petit Parlons Trek qui va présenter. Ben c'est marqué Parlons Trek sur l'horaire. Donc, Parlons Trek va présenter Star Trek Attack Wing. Donc, je vais apporter mon gros kit de Star Trek Attack Wing pour faire une démonstration sur place parce que j'ai tellement pas l'occasion d'y jouer que je vais me gâter un peu. Puis, J'ai assez de vaisseaux pour faire au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beaucoup d'armées. Donc, je vais essayer de monter un petit quelque chose, une petite démonstration, puis avoir du fun, puis jouer avec ceux qui veulent bien jouer ensemble.
J'espère qu'on va avoir la chance d'interviewer Mme Meriwether.
Oui.
C'est quand même une de mes premiers amours quand j'étais jeune. La femme chat.
Lee Meriwether, personnellement, j'aimerais bien Barbara Luna. Et on nous a promis, en dessous découverte, là,
Walter Koenig,
possiblement. Donc, ce serait très, vraiment le fun à avoir. Donc, Yann, maintenant que tu fais partie de l'équipe,
tu vas avoir la chance.
Tu vas avoir la chance. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on va essayer de prendre ça. Justement, en plus, que vu que notre hôtel est à une demi-heure de là-bas aussi,
on va rester sage.
C'est ça. Ça serait pas une grosse suite. On va rester plus sage.
Un d'entre nous va rester sage. Au moins.
On était quand même sage la dernière fois, là.
Ouais, au moins, malheureusement, Dom ne sera pas là pour parler fort alors qu'il est en état d'ébriété.
Non, il parle juste fort.
Il parle juste fort.
Personne n'est en état d'ébriété.
D'ailleurs, on va revoir notre ami Stuart. Stuart. Captain Foley.
Stuart va être là aussi?
Non, pas Stuart. Juste Captain Foley. Donc, Stuart ne sera pas présent.
Capitaine Foley
non,
ou Stuart?
Samuel, non, c'est Stuart.
C'est la même
c'est Samuel,
personne, ça.
Excuse-moi. Hey,
c'est Samuel qui sera pas là.
C'est Samuel qui sera pas là. Donc, okay. Notre ami de Trackyard sera présent, bien évidemment.
Ah, super.
Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ce, on va déjà vous quitter. Ça fait déjà quasiment 1h20 qu'on vous parle. Et sur ce, nous allons partir avec iMod. The Five-Year Mission, puisque Mud sera de retour dans Star Trek Discovery. Je pense que c'est de bonnes circonstances. Donc, sur ce, merci à Yann. Merci, Pierre.
Ça fait plaisir.
Et merci, Marc, de votre présence. On se reparle possiblement. On va voir la semaine prochaine. Je ne suis pas certain. Peut-être plus
je
dans deux.
Je
ne
penserais pas non plus.
Ouais,
moi,
c'est
je
ça,
vais
hein?
dormir parce que je vais partir pendant la nuit pour aller vous te rejoindre vers 5h du matin.
C'est ça. Donc, on va se. Probablement, on va essayer de faire un petit live au pire au travers de notre fin de semaine. Donc, tout dépendant de ce qui est disponible sur place. Donc, on va essayer de vous faire quelque chose au cours de notre fin de semaine à Ticonderoga.
Moi, je vais vous faire des lives, ça, c'est sûr.
C'est bon. Donc, merci beaucoup encore à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine.
Bye.
À bientôt. Bye.